Métaphysique, Père Philippe, Saint-Joseph, 4 décembre 84.
Nous allons, avant d'entrer dans la philosophie de la relation, voir quelques aspects chez les philosophes grecs, surtout, un peu dans saint Thomas, qu'est-ce qu'il dit sur la relation. Alors, je vais vous citer ce très beau texte d'Héraclite, qui est quand même très étonnant. Dieu est jour et nuit, Dieu est hiver et été, Dieu est guerre et paix, satiété et famine, il se transforme comme le feu, qui lorsqu'il est mêlé d'aromates, reçoit des noms différents selon le plaisir de chacun. C'est le premier fragment, 67. Nous descendons et nous ne descendons pas dans les mêmes fleuves. Nous sommes et nous ne sommes pas. Ceux qui descendent dans les mêmes fleuves reçoivent des eaux toujours nouvelles. Le flou, le pantareil. Les contraires s'accordent et la belle harmonie naît de ce qui diffère. Toute chose naît de la lutte. Mais tout le point de vue très artistique, hein, vous le sentez bien. C'est vrai, l'artiste est très sensible au contraire. L'artiste est très sensible à l'harmonie qui naît de ce qui diffère. Et c'est la belle harmonie qui naît de ce qui diffère. Toute chose naît de la lutte. Le père, la guerre est le père de toute chose. Il ne faut pas oublier que Héraclite, Hegel l'aime beaucoup. Il y a une parenté entre Héraclite et Hegel. S'il y a une parenté entre Parménide et Heidegger, il y a une parenté entre Héraclite et Hegel. Et c'est normal, parce que c'est la philosophie des contraires, c'est la philosophie du dépassement des contraires. Et c'est la philosophie de la relation. Chez Héraclite, la relation, ou le relatif, n'est pas explicité pour lui-même, mais c'est sous-jacent. Toute la trame de sa philosophie implique le point de vue relation. Dans la philosophie de Platon, le relatif joue un rôle très important, mais également très difficile à préciser, car le relatif est sans doute ce qui s'oppose à ce qui demeure, l'ousia. Mais à certains moments, il semble constitutif de l'ousia même, et donc de l'idée. C'est ça que c'est assez difficile. Mais c'est important d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la relation dans la philosophie de Platon. Que la relation ait beaucoup d'importance chez Platon, c'est normal étant donné la place que tient chez lui la dialectique, qui implique toujours une certaine opposition relative, cette opposition étant l'âme même de la dialectique. C'est évidemment dans les dialogues où la dialectique descendante, puisqu'on distingue la dialectique ascendante et descendante, est le plus explicite que l'usage de la relation est le plus net. Dans le Parménide, en effet, Platon étudie les relations des formes entre elles. Il n'étudie pas la relation pour elle-même, mais son exercice à travers les formes. Rappelons ce texte très significatif. C'est dans le Parménide 133 et D. À propos de l'ousia, toutes celles parmi les formes qui ne sont ce qu'elles sont qu'en leur relation mutuelle. Vous voyez, c'est quand même toutes celles parmi les formes qui ne sont ce qu'elles sont qu'en leur relation mutuelle. Donc la forme est considérée dans sa relation mutuelle. C'est dans ces relations qu'elles ont leur ousia. La ousia naît dans la relation. mais non dans une relation, pros, à ce qui, parmi nous, soit au titre de copie, soit au titre qu'on voudra, correspond à ces formes, dont la participation nous vaut les appellations respectives. C'est entre les formes. Au fond, la forme se définit relativement à une autre forme. Et par le fait même, l'ousia a l'air d'être presque absorbé par la relation. C'est un problème très important chez Platon, difficile. Quant à ces objets qui, chez nous, sont homonymes des formes eux aussi, c'est entre eux qu'ils ont leur relation et non avec les formes. C'est d'eux-mêmes qu'ils relèvent et non des formes, qui, à leur tour, portent les mêmes noms qu'eux. Donc, le point de vue de la participation des formes fait que les formes impliquent cette relation mutuelle. Cette relation mutuelle constitue presque les formes, donc constitue l'ousia. C'est le problème de l'unité synthétique des formes que Platon considère. Il s'agit bien d'un problème de relation. De fait, Platon étudie successivement les relations des formes entre elles, les relations des choses sensibles entre elles et les relations mutuelles des formes et des choses sensibles. Il y a un triple jeu de relations. Et ce triple jeu de relations fait que c'est très difficile de distinguer bien l'ousia, ce qui demeure, ce qui est au-delà du mouvement, et ses relations mutuelles entre elles. Dans le sophiste, mais donc, ce sont les livres de la fin, vous voyez bien, Parménide, sophiste, ce sont les livres qui terminent la pensée de Platon. Dans le sophiste, exposant les genres suprêmes, l'étranger fait remarquer que les êtres se disent les uns selon eux-mêmes, katota, les autres vers les autres. Ça, c'est une distinction donc, qui est extrêmement importante. C'est dans le sophiste, 255, c'est... Vous voyez la distinction qu'il donne, le katota, donc les êtres se disent les uns selon eux-mêmes. Alors vous avez le katota, kataota. Le katota, c'est percé, ce qui deviendra le percé en latin. Et c'est donc la réalité qui se définit par elle-même. Certaines réalités se définissent par elles-mêmes. Elles ont elles-mêmes leur propre détermination. Donc elles ont ce katota. Les autres, pros à l'un. N'oublions pas, la relation c'est le pros. Ça, c'est, nous allons voir progressivement. C'est le vers. Ça se traduit en latin le a. Le pros alma. D'autres réalités se disent toujours vers les autres. Faites un peu, si vous voulez, l'examen de conscience au niveau psychologique, au niveau philosophique de vous. Qu'est-ce qui en vous est katota? Qu'est-ce qui en vous est pros alma? Toute une série de déterminations en vous sont pros alma et certains êtres ne sont que cela. Vous supprimez la relation, c'est comme un être qui s'évapore. Il y a des gens qui ne sont que relatifs, uniquement. Et puis il y en a d'autres qui sont katota. Et c'est difficile de les faire sortir de leur katota. Qui sont eux tellement en eux-mêmes, je ne dis pas imbus d'eux-mêmes, non, tellement en eux-mêmes, qu'ils ont beaucoup de peine d'entrer en relation avec d'autres. C'est très joli, hein, ça. Alors ça se situe à quel niveau? Vous voyez, c'est intéressant comme distinction, c'est dans le sophiste. Un livre qui se veut philosophique et qui veut la reprise de toute la théologie, de toute la philosophie de Platon après le Parménide. Les êtres se disent les uns selon eux-mêmes, les autres vers les autres. Voilà la grande distinction des êtres. Oui, première division des êtres, les katota, les prosalma. Cette division est très nette. L'opposition entre le katota et le prosalma est, on ne peut plus manifeste, l'autre, lui, ne se dit que vers un autre. Pros hétéron. Tout ce qui est autre a comme caractère nécessaire de n'être ce qu'il est que relativement à un autre. Il y a des gens qui n'existent qu'en fonction d'un autre. Ils s'appuient toujours sur la canne. Ils s'appuient sur un autre. Or, toutes les formes en tant qu'autre participent de la forme de l'autre. Toutes les formes en tant qu'autre participent de la forme autre. La forme de l'autre, forcément, elles sont relatives à l'autre. Donc elles participent et elles sont liées à l'autre. Ce qui fait comprendre comment la relation est présente à toutes les formes. Et quand Merleau-Ponty dira que l'être est un tissu de relations, dans quelle mesure est-ce exact pour les formes de Platon ? Les formes de Platon ne peuvent se comprendre que l'une par rapport à l'autre, dialectique descendante. Et c'est pour ça qu'il affirmera que le bien est au-dessus de la forme et de l'ousia. Et donc, ousia, c'est ça qui nous intéresse, hein, ousia, qui pour Platon égale la forme, elle-même liée au pros vers un autre. Alors, quel est le lien entre substance et relation ? C'est le problème, vous voyez, c'est très bien situé, c'est pas commode du tout. Hein. C'est pas commode du tout de saisir quel est le lien. Au point de vue psychologique, hein, vous ne pouvez pas distinguer les deux. Au point de vue psychologique, la distinction de Platon est assez juste au point de vue psychologique. Vous voyez en vous, oui, il y a une certaine autonomie, puis il y a tout ce qui est relatif aux autres, et même ce qui est autonome est relatif aux autres et se construit en fonction des autres. Dans le tête-à-tête, parlant du semblable et du dissemblable, de l'identique et du différent, tête-à-tête souligne, c'est de telle détermination surtout que l'âme pourrait examiner la substance en les comparant mutuellement. Pros allela. C'est de telles déterminations, surtout que l'âme pourrait examiner la substance. On examine la substance en les comparant mutuellement. Donc la substance est engendrée de la relation. Et la substance ne peut pas se séparer de la relation. Dans le politique, vous voyez, donc tous les livres de Platon qui sont les livres de la fin. Et je crois que c'est vrai que plus on entre dans la pensée de Platon, plus on voit que c'est comme un tissu de relations. Et là, on voit très bien ce que ça représente la dialectique. Celui qui pense dialectiquement pense toujours dans un tissu de relations, toujours relativement à l'autre. Dans le politique, à propos de la division de l'art de la mesure, l'étranger affirme « Divisons cet art en deux parties, d'une part selon la communauté, vers la relation mutuelle, de la grandeur et de la petitesse, d'autre part selon l'ousia nécessaire du devenir. » Donc vous retrouvez toujours l'opposition entre ousia et pros. Mais cette opposition fait que l'ousia est presque liée à la relation d'une manière telle qu'on ne voit plus très bien comment on peut la séparer. Elle est un moment, comme on dirait en dialectique, c'est un moment de la dialectique. Bien, la forme est un moment de ce jeu de relations. Dans ces dialogues, c'est vraiment la relation réciproque qui est mise en lumière. Le point de départ de la thématisation de la relation n'est-elle pas dans la dialectique de l'identité et de la différence ? de la ressemblance et de la dissemblance, de l'égalité et de l'inégalité. Première hypothèse du Parménide. Cela ferait peut-être mieux comprendre la participation au même et à l'autre dans le sophiste, ainsi que le point de départ du tête-à-tête. Alors ceci, tout est relatif dès que l'un devient multiple. Mais tout est relatif avant tout à l'un, et donc toutes les modalités et donc à toutes les modalités de l'un. C'est aussi très intéressant comment, si toutes les formes sont relatives les unes aux autres, on aboutira nécessairement à l'absolu qui ne sera plus l'ousia, mais qui sera l'un, au-delà de l'ousia. Ça aussi, ça fait partie de toute une perspective de la pensée dialectique. Dans le Timée, Platon fait encore usage de la relation d'une manière plus intérieure. Si ce monde, dit-il, est beau, si le démiurge est bon, de toute évidence, c'est vers le modèle éternel qu'il a regardé. Prosto aidios emblepein. Dans le cas contraire, ce qu'il n'est même pas permis de supposer, ce serait vers ce qui est devenu. Prosto gegonos. Il est donc clair pour quiconque que c'est vrai le modèle éternel. Pardon. Il est donc clair pour quiconque que c'est vers le modèle éternel. Pros. Il construit le démiurge, puisque le timée, c'est d'essayer de comprendre comment est devenu notre univers. Et notre univers est devenu par le démiurge. Et le démiurge contemple le modèle. Alors c'est cette contemplation du modèle, il est tout entier polarisé vers le modèle, qui explique comment tout est relatif à ce modèle. Problème très important, celui-là, vous comprenez, le lien entre l'autonomie de l'être et la relativisation de l'être. On pourrait presque dire que c'est le problème central, d'une certaine manière. Pour Platon, c'est le problème central. C'est le problème central pour Platon, c'est de comprendre comment, et dans le Timée on le retrouve, comment tout ce qui est créé est relatif au Créateur, et comment ce qui est créé peut avoir quand même une autonomie. Vous voyez, donc les liens entre le relatif et l'autonomie, la détermination. L'ousia, c'est la détermination, c'est l'autonomie. L'ousia est principe d'autonomie. Le pros est principe de relativité, de dépendance. Alors comment concevoir le lien entre être totalement relatif, dans un jugement de sagesse. On verra à propos des jugements de sagesse. Hein, ce sera un des aspects intéressants à voir du point de vue du jugement de sagesse. Dans un jugement de sagesse, on voit que tout est dépendant radicalement de l'être premier. Pouvons-nous sauver dans un jugement de sagesse l'ousia, la substance? Alors, entrons tout de suite. Vous voyez, donc, dans Platon, on peut dire qu'il y a un usage, un usage du relatif de plus en plus grand. Les derniers dialogues de Platon sont très très nettement, très très pris par ce point de vue de la relation. Et alors, Aristote. Si Aristote peut être considéré comme le philosophe de la substance et de l'acte, j'ajoute tout de suite, parce que ça, l'ousiologie d'Aristote, hein, comprenez bien, je ne peux pas ramener la philosophie d'Aristote à la substance. Il faut tout de suite ajouter « et l'acte ». Livre Zeta, livre Theta. Il n'en accorde pas moins au relatif et à ce qui est en puissance une attention particulière. Ce qui est en puissance, c'est ce qui est relatif à l'acte. Ça, c'est la grande découverte, hein. Vous allez tout de suite saisir, hein, l'astuce de la pensée d'Aristote. Parce que c'est ça. Substance et
tel que ce temps est relatif, relation. Donc, la substance est le premier, du point de vue de l'être. Le relatif est le second. Puis vous avez l'être en acte et l'être en puissance. Eh bien, l'être en acte est premier, l'être en puissance est second. Or, l'être en puissance, il est tout entier relatif à l'être en acte.
L'être en puissance se définit par une relation. Il est totalement relatif. Il n'est pas la relation prédicamentale, hein. Ça, nous allons voir. Mais il est en ce qu'il est tout entier relatif. Il ne peut pas exister par soi. Pensez à ce que nous avions dit à propos de l'essence. L'essence est en puissance à l'égard d'exister. Il est donc tout entier relatif. Son intelligibilité ne peut se comprendre qu'en fonction de l'être en acte. Tellement il est relatif, tellement il est dépendant d'eux. Alors voyez, tout l'intérêt sera de comprendre quel lien y a-t-il entre ce « deux » et ce « nous ». Dans la division que nous faisons de l'ordre de l'être. Et c'est ça qui va être toute l'astuce d'Aristote. C'est d'avoir compris que le relatif peut être pris de deux manières différentes. Il peut être pris ici, il peut être pris ici. Et c'est au fond... Ce qui montre bien qu'il a le souci de nous donner un point de vue du relatif par rapport à ce qui est. Tandis que Platon donne le relatif par rapport à la forme. Et on ne peut pas en sortir. C'est ça l'astuce. Hein. C'est de se comprendre que le relatif, vous le mettez en référence avec quoi? Si vous le mettez le relatif en référence avec la forme, vous n'en sortez pas. Le relatif absorbe la forme. Si vous mettez le relatif en référence à ce qui est, la substance ou l'acte, alors vous pouvez distinguer et maintenir la distinction. Nous allons voir ça progressivement. Parce que c'est très intéressant de voir ça. Voir où le relatif est premier. Où la substance est première. Le relatif est premier du côté subjectif du connaissant. Et la substance est première du côté de ce qui est, donc de la réalité objective. Ma connaissance, hein, implique toujours une relation. Toujours. Par votre vie intellectuelle, vous êtes relatif à. Par votre vie affective, vous êtes relatif à. Très ennuyeux. Et si votre vie affective et votre vie intellectuelle deviennent premiers, cogito, j'aime, vous n'en sortez plus et vous perdez votre autonomie. L'autonomie, c'est votre substance. Hein. Alors, alors la répercussion ira jusqu'au bout. Est-ce que vous définissez la personne par sa capacité de communication et de relation à un autre, ou est-ce que vous définissez la personne par elle-même? Née donc celle, définissez la personne relative aux autres. Et nous essayons de définir la personne par la substance, donc, au contraire, principe d'autonomie. Mais on est là vers quelque chose qui est tout à fait central au point de vue philosophique. Ce que je vous avais dit la dernière fois. Il y a une double orientation au point de vue philosophique. Alors c'est intéressant de comprendre à quel moment se fait le déraillement. Si déraillement il y a, n'est-ce pas ? À quel moment se fait le déraillement ? C'est-à-dire, posez-vous la question, dans quel ordre la relation est première. Dans quel ordre la substance est première? À quel niveau le relatif est premier? à quel niveau la substance est première. Alors, si vous identifiez substance et forme, pouvez-vous encore sauvegarder la primauté de la substance? C'est toute la question de Platon. Si Aristote peut être considéré comme le philosophe de la substance et de l'acte, il n'en accorde pas moins au relatif, à ce qui est en puissance, une attention particulière, mais seconde, tout en reconnaissant les difficultés que présente une telle étude. Je dis seconde, mais Aristote reconnaît que dans l'individu qui devient, la puissance est première, donc le relatif est premier. Mais il suffit de comprendre. C'est en face des sophistes, des platoniciens, qu'Aristote élabore sa propre théorie du relatif. À ces derniers, il reproche à la fois d'exalter le relatif au point de le considérer comme un absolu, en en faisant une forme antérieure à ce qui est, et de ramener le relatif à l'inégal et même au non, au non-être, pour expliquer la multiplicité des formes. Cette double critique d'Aristote met en lumière l'insuffisance radicale du platonisme en ce qui concerne le relatif. En faire une forme idéale, donc regarder le relatif par rapport à la forme, c'est ne plus pouvoir discerner où se trouve la primauté de la substance et où se trouve la primauté du relatif. On est coincé. Essayez de réfléchir à ça. C'est intéressant parce que ça montre bien comment une philosophie de la forme ne peut pas aboutir. Elle peut être très grande comme une philosophie esthétique, comme une philosophie à type artistique, parce que l'artiste regarde la forme, regarde le point de vue de la qualité, mais elle ne va pas assez loin. Et alors, la grande distinction entre substance et relatif ne peut plus se faire. Alors, regardons un tout petit peu dans Aristote, puisque ce sont des lieux que nous devons connaître. Ça fait partie, je dirais, de la culture, de comprendre que Aristote est quand même le premier philosophe qui se pose la question du ti esti du pros. Du prosti. Qu'est-ce que c'est que le relatif? Qu'est-ce que c'est que le relatif? Alors, dans les catégories, vous voyez, on revient toujours aux catégories, pour vous donner envie de les lire attentivement. C'est la première chose que vous devez faire. Hein. Dans les catégories, après avoir défini la substance, défini, précisé ce qu'est la substance, au sens le plus propre, la substance première, comme ce qui n'est ni énoncé en dépendance d'un sujet, ni dans un sujet. Aristote, se fondant sur l'analyse du langage, présente ainsi la catégorie du relatif. On appelle relatif prosti. Le prosti, c'est le relatif. Aristote ne parle pas de la relation, mais du relatif. C'est aussi très important au point de vue du langage. C'est saint Thomas qui parlera de la relation. Toujours, le théologien formalise d'une certaine manière. Le philosophe est très attentif à voir que la relation, vous ne l'avez jamais vue. Tandis que le relatif, vous pouvez l'expérimenter. Dans certains domaines, vous êtes relatif. Dans d'autres domaines, l'autonomie pousse. N'est-ce pas ? Vous savez bien, faites un discernement entre les deux. Le novice, il est relatif. Et plus il est novice, plus il devient relatif. Mais son autonomie d'homme demeure. Et c'est pour ça que c'est pas si commode que ça, n'est-ce pas ? De se relativiser. C'est la parole de Nicodème. Hein ? Comment un homme déjà venu vieux peut-il rentrer dans le sein maternel?
Dans le sein maternel, il est dans un état relatif. Quand il est vieux, il est dans un état d'autonomie. Comment peut-il retourner dans le sein maternel? Il y a un ordre du relatif vers l'autonome, ce qui est normal, mais l'ordre inverse, pas très possible. Alors, on appelle relatif, ça c'est un passage très important, on appelle relatif, prosti, les êtres tels qu'eux-mêmes, dans ce qu'ils sont dits en dépendance d'un autre, ou de quelque façon que ce soit, se rapportent à un autre, sont orientés vers un autre. Donc vous voyez bien, le relatif ne peut pas se définir tout seul. Le prosti ne se définit jamais tout seul. Dès que vous êtes relatif à quelqu'un. Ce quelqu'un est quelquefois plus noble que vous, ce quelqu'un quelquefois est moins noble que vous. Vous êtes relatif à votre chien. Ça n'est pas arrivé, ça. Il y a des gens qui ne circulent qu'avec leur chien. Donc ils sont relatifs avec le chien. Et le chien les emmène là où ils ne veulent pas. C'est bien évident. Et puis vous êtes relatif à d'autres plus grands que vous. Alors vous êtes relatif à Dieu, au Christ. On est défini par... Le chrétien, c'est celui qui est relatif au Christ. Il se définit comme ça. Donc on appelle relatif les êtres tels qu'eux-mêmes, dans ce qu'ils sont, qu'eux-mêmes, dans ce qu'ils sont dits en dépendance d'un autre, ou de quelque façon que ce soit, se rapportent à un autre. Ainsi, plus grand et dans tout son être, dit d'une autre d'un autre. Car c'est par rapport à un autre qu'il est plus grand, de même le double. Et dans tout son être, dit d'un autre, car c'est d'un autre qu'il est le double. Il est bien évident que double est relatif à un autre et ne peut pas se définir par lui-même. Le relatif exprime donc à l'opposé de la substance ce qui est pure référence à un autre. Outre le relatif pur, comme double ou plus grand, Aristote discerne plusieurs espèces de relatifs, notamment les relatifs qualité, qui peuvent être considérés comme relatifs, comme peut-être qu'on dirait soit comme relatifs, soit comme qualité. Par exemple, exis, l'habitus, la disposition, sont à la fois relatifs et en même temps sont absolus. C'est très très curieux. C'est très curieux que la même réalité, prenez l'habitus, existe. L'habitus. Prenez l'habitus de sagesse. C'est celui-là que nous connaissons mieux. Alors, l'habitus de sagesse, il est à la fois une qualité, il ennoblit mon intelligence. Cette qualité, en tant que la sagesse, habitus, ennoblit mon intelligence, il est quelque chose d'absolu. Et en même temps, il est relatif à pros. Il est vers, ordonné vers le bien. Vers la cause première. Il est ordonné, il ouvre mon intelligence vers les deux. Vous voyez qu'il y a les deux. Nous sommes donc en face d'une réalité qui ne peut pas se ramener, se définir uniquement à une détermination. Elle implique en elle-même un regard vers l'autre. Elle louche. Elle implique une détermination, puis elle est orientée vers quelque chose d'autre. Elle ne peut pas se ramener uniquement à un habit, à une détermination, à une catégorie. Elle implique les deux. Et c'est quand même très curieux, ça. C'est très curieux parce que ça montre que les catégories telles qu'elles sont données, oui, c'est bien, mais il y a des réalités qui sont entre les deux. L'habitus, la qualité. Les relatives situations
la station droite, la position couchée, etc., dont le caractère relatif est moins explicite et la signification qualitative plus immédiate. Une situation implique les deux. Un être est debout, et donc il est de cette manière-là, et en même temps il est relatif au tout, en tant que dans la situation. Aristote examine ensuite les propriétés des relatifs. Donc vous avez deux aspects très importants à souligner au point de vue philosophique. Le prospect en toute sa pureté. Le relatif dans toute sa pureté. Une réalité qui, en ce qu'elle est, dans son être, est relatif à. Dans son être même. Vous ne pouvez pas le saisir en dehors de l'autre. Le doux. Vous ne pouvez pas le saisir en dehors de l'autre. Tandis qu'au contraire, d'autres relatifs, on les saisit en eux-mêmes, ils ont une qualité. Et ils impliquent un regard vers l'autre. Oui, c'est intéressant, vous ne faites pas cette distinction-là au niveau des habitudes, au niveau de la substance. Autrement dit, on est en face d'un être qui peut être parasite. La relation, ça peut s'agréger, ça peut coller sur une qualité et mettre cette qualité ordonnée vers autre chose. C'est le propre, justement, du relatif. Le relatif a quelque chose de très, très particulier, c'est qu'il peut très bien appartenir à un être qui n'est pas relatif en lui-même, qui en lui-même est une qualité, qui en lui-même implique le point de vue de la situation. Alors on va voir du reste comment, ça on peut le saisir très bien, il suffit de réfléchir un tout petit peu sur ce que représentent les diverses qualités que nous précisons. Aristote examine ensuite les propriétés des relatifs, ce qu'il fait toujours dans les catégories. Certains relatifs sont contraires, notamment en tant qu'ils impliquent la qualité ou la quantité. Mais les relatifs purs n'ont pas de contraires. La contrariété n'est donc pas propre au relatif comme tel. Certains relatifs sont capables de plus et de moins, comme le semblable, mais non pas tous. Le relatif pur n'implique pas de plus et de moins. Tous les relatifs, pris au sens propre, sont dits vers leur corrélatif, selon une réciprocité parfaite s'il s'agit des relatifs purs. Imparfaite dans le cas des relatifs qualités. Voilà donc la première propriété spécifique des relatifs comme tels. À cette propriété des corrélatifs s'ajoute celle qui concerne les opposés relatifs, puisque toute corrélation implique une opposition relative. Les termes qui s'opposent comme des relatifs sont eux-mêmes dans tout leur être, dit de leur opposé. Le double est le double d'une autre chose. La science s'oppose à l'objet connaissable. Et la science, comme l'objet connaissable, est énoncée en dépendance de leur opposé. Mais alors, qu'on distingue deux types de corrélatifs, réciproques ou non, il n'en va pas de même pour les opposés relatifs. Car il n'exprime que la manière dont certaines réalités sont séparées, alors que les corrélatifs expriment au contraire la manière dont ces réalités s'impliquent mutuellement. Donc, qu'est-ce qui caractérise, quand on cherche la propriété, c'est voir ce qui se caractérise. Qu'est-ce qui caractérise cet être particulier, être relatif? C'est qu'il implique un corrélatif. Le relatif implique toujours un corrélatif. Ce corrélatif est ou mutuel ou n'est pas mutuel. C'est vrai. Il y a donc deux cas tout à fait particuliers. Mais il implique toujours le corrélatif. La quatrième propriété des relatifs, les relatifs comme tels sont par nature simultanés. Mais d'autres liens peuvent intervenir entre les relatifs et supprimer cette simultanéité. La simultanéité naturelle est donc bien une propriété des relatifs comme tels. Ceci, c'est la conséquence même du corrélatif. Si ils sont corrélatifs, ils vont impliquer une simultanéité. Ça va jouer un très grand rôle. Les relatifs impliquent d'être corrélatif et d'être simultané dans l'exercice même de la corrélation. Au cours de cette analyse, il s'est avéré que les termes qualitatifs et quantitatifs pouvaient être regardés comme des relatifs. Aristote, qui ne perd pas de vue les platoniciens, va donc poser au terme de sa recherche une dernière question. Les termes substantiels peuvent-ils eux aussi être regardés comme des relatifs? Platon a regardé que les formes en soi pouvaient être corrélatives, puisqu'il peut y avoir une participation à l'intérieur des formes en soi. Alors on trouve à l'intérieur de l'analyse des catégories cette question d'Aristote qui va directement par rapport à la participation des formes idéales de Platon. Les termes substantiels peuvent-ils eux aussi être regardés comme des relatifs? Alors voici la réponse d'Aristote. C'est intéressant parce que c'est là où il va attaquer directement et montrer la faiblesse du platonisme. En ce qui concerne les substances premières et leur partie intégrante, il est clair que ce n'est pas possible. Mais il n'en va pas de même des substances secondes, ou plus exactement de leur partie en tant que partie, la main de l'homme, la tête de l'homme. Aristote propose alors une nouvelle définition du relatif pur, qui a l'avantage d'intégrer la simultanéité de la connaissance des termes relatifs, puisque la connaissance du relatif ainsi défini donne immédiatement la connaissance de son corrélatif. Les relatifs, dit-il, sont ceux pour qui l'être consiste dans le rapport à quelque chose. Vous voyez, ça c'est très important, parce que c'est par là que va Aristote. Jusque-là, Aristote était dans le point de vue descriptif, dans le point de vue de la dénomination. Puis, il se rappelle cette position de Platon. Il y a des substances relatives. Qu'est-ce que ça veut dire, des substances relatives? Qu'il y ait des qualités relatives. Il peut y avoir des qualités relatives. On peut dire qu'une qualité est relative à autre chose. Et quelle est qualité? Peut-on dire ça aussi de la substance? Vous voyez, c'est donc directement par rapport au sophiste, directement par rapport à la participation de Platon. Et je crois qu'en faisant ça, Aristote touche le point de vue le plus important, d'une certaine manière, de sa critique à Platon. C'est là. C'est toujours à l'égard du relatif qu'on peut regarder ce qu'il y a de vrai dans une position plus idéaliste et une position réaliste. Parce que c'est la crête par où on se retrouve, la relation. Platon reconnaît la relation, Aristote reconnaît la relation. Aristote ne va pas se retrouver avec Platon à propos de l'ousia. Non, non, trop difficile, c'est pas trop différent. Mais le relatif, on se retrouve. Et alors, parce que c'est au relatif auquel on se retrouve, c'est normal que ce soit dans sa conception du relatif même qu'on va voir la différence entre Aristote et Platon. Donc c'est pour ça que ce lieu est très très important. C'est un moment très très décisif dans la pensée d'Aristote. Et c'est un lieu qu'on ne voit pas habituellement. Ordinairement, on voit la grosse critique d'Aristote des formes en soi. C'est très bien, ça c'est la grosse artillerie, c'est très très important de la voir. Mais c'est pas ça qui est le principal. Ce qui est important, c'est la conception d'Aristote à l'égard du relatif et la conception de Platon à l'égard du relatif. Alors là, vous pouvez dire que vous voyez exactement la position des deux. J'espère que vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours intéressant ça. Vous savez bien qu'ordinairement, on saisit parfaitement un philosophe quand on voit les critiques qu'il fait à un autre philosophe. Parce que la négation est toujours plus affirmative que l'affirmation. La négation a ceci de particulier, c'est qu'elle rejette. Et c'est dans le rejet qu'on voit le mieux comment l'intelligence se défend. Et donc c'est souvent beaucoup plus explicite et on comprend beaucoup mieux la chose. On comprend beaucoup mieux. C'est comme ça dans le... Vous n'avez qu'à écouter une récréation quand quelqu'un se dit non. Ah oui, il se révèle. On voit sa colère. Donc on voit son irascible qui se révèle. Et l'irascible, la colère, vous le savez bien, dévoile les vulnérabilités. Eh bien, les négations dévoilent les vulnérabilités. Quand on est en face d'un auteur comme Aristote qui se défend contre Platon, il y avait de quoi, du reste, hein ? Parce que c'était quand même tellement séduisant. C'était tellement fort. Platon face aux sophistes. Aristote dit, c'est pas suffisant. Ce que vous avez construit, c'est très beau, c'est très très grand, mais c'est pas suffisant. Et les sophistes pourront encore vous rouler. Alors, il s'agit justement de se défendre des sophistes. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin pour se défendre des sophistes. Et alors, c'est ça qui est intéressant ici, c'est que nous voyons Aristote, comme de coutume, il décrit qu'est-ce que c'est le terme relatif. Et il éprouve ici le besoin d'une réflexion qu'il ne fait nulle part ailleurs. Il le fait au niveau du relatif. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est justement en saisissant ce qu'est le relatif, saisir l'être du relatif, c'est à ce moment-là qu'il pourra le mieux montrer l'erreur de Platon. Comment il faut aller jusqu'à l'être pour découvrir ce que c'est que le relatif. Et que c'est par rapport à l'être. Les relatifs sont ceux pour qui l'être consiste dans le rapport à quelque chose.